Dans Acte 5, c'est là qu'on a lu ce matin, et on va entamer le message juste avec un verset, parce que j'aimerais lire ce verset pour vous donner le titre et un peu la direction du message, mais à travers le message, on va lire spécialement là, la fin de ce chapitre à travers les différents points du message. Donc, vous êtes là, Acte 5. Le verset 20 nous dit, alors c'est l'ange ici qui parle, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Seigneur, on te remercie de ce qu'on a ta parole entre les mains. Et Seigneur, merci que tu es venu en mission sur cette terre pour racheter, pour sauver, pour restaurer. Et que nous, ton corps, nous sommes dans la poursuite de cette mission. On n'est pas des gens sans but, sans valeur. Seigneur, tu nous as laissés ici avec une mission précieuse, éternelle, qui transforme les vies pour le mieux. Et Seigneur, qu'on puisse la faire retentir dans cette société, dans ce monde tout confus, qui a besoin de voir la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux, entre la religion et Christ, le Sauveur. Seigneur, ouvre nos yeux qu'on voit dans ta parole ce matin les choses que tu as pour chacun de nous, mais aussi comme Église, qu'on puisse avoir une même vision, une même compréhension des choses qu'on vit à la lumière de ta parole et que ça nous unisse, que ça nous fortifie ensemble, Seigneur, pour toi, pour ton œuvre et ta gloire. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, tenez-vous, annoncez. Trois verbes qu'on voit dans le verset 20, c'est le titre du message. Allez, tenez-vous, annoncez. Et c'est des choses qu'on va considérer à travers le message, mais juste en introduction. Vous savez que ce qu'on vient de lire, c'est, on peut dire, la période naissante de l'Église qui était dans la tourmente. Et on peut dire qu'encore, puis je l'ai dit avant qu'on lise le passage, dans notre société, on l'a vécu dans beaucoup de sociétés, l'Église est toujours dans une tourmente, dans de l'opposition, de la persécution. Mais comme c'est le thème du mois, Jésus-Christ, notre justice, n'en est pas moins proclamé. On voit ça dans le livre des Actes. Jésus est proclamé comme étant le juste, comme étant celui qui est vivant et qui sauve les pécheurs et qui est la raison d'être de l'existence de l'Église, de sa proclamation. Et je dirais que ici, avec les apôtres qui vivaient de la persécution, parce que c'est le contexte vraiment du chapitre 4 et chapitre 5, face aux attaques à Christ, notre justice, dans l'Église, avec Ananias et Saphira, hein, ça a été adressé comme problème. Dieu s'est occupé du péché dans l'Église, mais aussi hors de l'Église, parce que dans Jérusalem, et là, on sait aussi, après, ça a continué, même au-delà, l'opposition était constante, constamment. L'opposition au message de l'Évangile et au messager de l'Évangile était toujours présente. Et donc, ces trois mots, trois verbes, « allez, tenez-vous et annoncez », on peut dire que ça résume la grande commission, mais spécialement dans un contexte de persécution. Et l'expression « tenez-vous », se tenir, c'est la clé, c'est vraiment le point, le pivot par rapport à la grande commission dans un contexte d'opposition. Et je crois qu'on doit être très vigilant par rapport à ça dans le moment actuel auquel nous sommes rendus. Parce que la tension de l'opposition qu'on a vécue se relâche. Et le danger, c'est qu'on se relâche, nous aussi. Mais j'aimerais, connaissez-vous Jérémie 12, 5? En fait, vous le connaissez peut-être, mais vous ne vous rappelez plus de la référence. Mais ça dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Vous savez, on a passé à travers des choses, et là on est rendu où est-ce qu'on est, mais le Seigneur veut qu'on soit prêt à ce que lui a pour l'avenir, et on ne doit jamais se relâcher. Et je dois vous dire que si certaines batailles sont passées, la guerre n'est pas finie. Et que si on a un temps de repos, c'est pour nous préparer pour ce que le Seigneur a dans la suite des choses. Et aussi, je dois vous dire que la justice de Dieu, en ce moment, dans notre société, est toujours et encore bafouée. OK? Même si on ne vit pas autant la pression qu'on a vécue auparavant, la justice de Dieu est bafouée à gauche, à droite, et l'étendard de l'Évangile a besoin plus que jamais de flotter au-dessus de l'Église de Jésus-Christ. On ne doit pas se relâcher, ne nous relâchons pas, car nous moissonnerons au temps convenable. Excusez, je me suis trompé, j'ai mal commencé. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. Ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça, vous direz ça à quelqu'un qui commence à apprendre le français, là. Si nous ne nous relâchons pas, nous, c'est vraiment dur pour un anglophone à dire. Veux-tu t'essayer? Si nous ne nous relâchons pas. Je crois que le message qu'on va avoir ce matin, qu'on considère ensemble, va nous aider à comprendre pourquoi c'est tellement important qu'on se tienne, même dans le temps présent où est-ce qu'on est d'accalmie. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous apprendre à vivre l'Évangile dans toutes les circonstances dans lesquelles et de vivre à la lumière de l'Évangile, à la lumière du Seigneur de l'Évangile. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. L'Évangile, c'est le message. Le Seigneur de l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça dans Acte 5, il se tenait pas juste pour un message, mais pour celui qui sauve, pour celui qui est le message lui-même. Et historiquement, ça a été ça aussi, l'histoire de l'Église. Donc, on va considérer simplement ensemble, avec Acte 5, trois rôles de la justice de l'Évangile pour l'Église. D'abord, dans les versets 17 à 26, qu'on va lire dans un instant, la justice de Christ va dans le but d'être proclamée. Vous savez, on va avec un message qu'on est tenu de proclamer. La justice qui va dans le but de proclamer. On va lire les versets 17 à 26, vous allez voir. « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent, ils firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici! » Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. On voit au verset 25 que malgré qu'ils avaient été mis en prison, qu'est-ce qu'ils font aussitôt qu'ils sortent? Ils s'en vont dans le temple et ils enseignent. Ils proclamaient le message de l'Évangile. Personne ne pouvait les faire taire parce que Dieu leur avait dit de parler. Et donc, l'autorité suprême à laquelle ils obéissaient, c'était celle du Seigneur. Et on voit là l'accomplissement de ce que Jésus a dit dans son merveilleux sermon sur la montagne, dans le tout début de ce sermon-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ils obéissaient au sermon du roi, ils étaient en train de le suivre, lui, leur roi, dans l'établissement, l'avancement de son royaume. Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne, c'est la proclamation de l'établissement de son royaume. Puis, le livre des Actes, en fait, c'est la continuation de ça. Et dans la réalité terrestre ici, là, où est-ce qu'on voit qu'il prêchait le message de l'Évangile du royaume. Et l'Église de Jésus-Christ, en allant, en se tenant et en annonçant le message de l'Évangile, et lorsqu'elle commence simplement en allant, elle joue ce rôle de sel qui préserve la corruption. Vous savez, le sel, à l'époque, vous avez déjà ça, là, était un agent pour préserver les aliments, spécialement la viande était très salée, parce que ça l'empêchait, la pourriture et tout ça. Encore même, c'est quand même une pratique qui peut être utilisée parfois. Et la lumière, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les ténèbres. Lorsque la lumière est là, les ténèbres s'en vont immédiatement. Et c'est le rôle principal et fondamental du corps de Christ dans ce monde. Et j'aimerais ici faire un parallèle. Le sel qui enlève la corruption, ça c'est l'amour de Dieu qui dans ce monde égocentrique, qui ne pense qu'à lui-même. Il y a des gens qui acceptent de souffrir pour le péché puis le bien des autres. Comme Christ, c'est l'ultime acte, la croix, il a accepté de souffrir l'ultime, pour le bien puis le péché des autres. Et le corps de Christ continue ça sur terre. C'est ça le vrai amour. Et aussi, l'Église proclame la vérité. Et ça, c'est la lumière de la vérité qui chasse les ténèbres du mensonge. Et donc, on voit vraiment qu'on est dans le prolongement de l'œuvre de Christ qui, dans son incarnation, est venu commencer ça. Et nous sommes appelés à le continuer. Et juste pour vous dire ici, il y a quelque chose, il y a une équation. Amour plus justice égale... Amour plus vérité égale justice. Lorsque dans l'amour, on proclame la vérité, c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la combinaison parfaite des deux. Et c'est ce que Christ a fait parfaitement. Et c'est ce que nous, on est appelés à continuer étant sel et lumière dans ce monde. Et vous savez, Jésus est venu comme étant le standard parfait et absolu de ce que doit être l'homme. Selon le plan original, et homme avec un grand H, là, incluant autant les femmes que les hommes, l'humanité, il est le dernier Adam, l'ultime. De même, l'Église, qui est son corps, joue ce rôle par le fait de proclamer l'Évangile. Elle joue ce rôle dans ce monde parce qu'elle proclame qui il est. Elle ne fait pas juste proclamer... un message, on proclame la personne du message. Et là-dessus, je vais vous donner une illustration qui a attiré mon attention dernièrement dans ma lecture. Je vous lis Luc 1, 71 à 74. Ici, c'est Zacharie, c'est une parole prophétique qu'il a prononcée lorsqu'il a vu Jésus peu après temps sa naissance. Il a dit, Zacharie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. C'est comme ça, Dieu manifeste sa miséricorde. Et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Je pense qu'il y a une excellente vérité biblique ici et messianique par rapport aux abus du gouvernement. Vous savez que le gouvernement de Rome était très dur et que Israël, au temps de Jésus, était sous l'oppression romaine et que dans sa prière ici, ce qui recense la mission du Messie, ça va être d'amener cette délivrance pour pouvoir le servir sans crainte. Et donc, la mission du Messie, de Jésus, dans l'histoire et dans son royaume, qui a déjà commencé à établir, c'est justement de nous permettre de le servir sans crainte. Et ça, malgré la tromperie des afférents. Vous savez qu'on voit partout, c'est comme si on lisait le journal quand on lit Psaume 2. Pourquoi les nations se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs chaînes, rompons leurs liens. C'est ce qu'on voit dans nos... C'est ce que les gouvernements disent en ce moment, c'est ce que les sociétés disent en ce moment. On ne veut rien savoir de Dieu. Mais savez-vous quoi? L'histoire n'est pas finie. Parce que encore dans les psaumes, mais dans le psaume 111, ça dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Tous les ennemis de Dieu vont éventuellement être complètement soumis à sa souveraineté. Et le monde et Satan, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ils veulent constamment, en anglais, il y a une expression, vous me donnerez La traduction française correcte, parce que là, j'aurais pu le googler, là, mais je travaille pas à l'ordinateur, je m'assois avec une bonne vieille concordance, puis des, en tout cas des livres, tu sais, des affaires de même qui s'ouvrent, là, qu'on met dans une bibliothèque. Là. Mais le monde, on dit en anglais « move the goalpost ». Tu sais, les buts, là, tu sais, un but, là, c'est le même, là, mais le monde, il triche, oups, il tente le but par là. Il déplace la borne ancienne, on pourrait dire, c'est ça, oui, OK. Sont constamment en train de déroger. Ils redéfinissent ce qui est bien et ce qui est mal selon eux, ce que eux ils pensent, et non selon le standard parfait de la parole et de la personne de Dieu. Et c'est à nous, l'Église, que Dieu a confié sa parole afin que nous allions pour proclamer qu'il y a un bien, il y a un mal, il y a une différence entre les deux, il y a un absolu. Et c'est ça être l'influence, le sel de la terre. C'est ça jeter sa lumière dans ce monde qui est en mode autodestruction en ce moment à cause qu'ils sont en train de se laisser aller là-dedans. Et c'est dans sa grâce pour ce monde qu'il veut exercer son influence comme ça à travers son corps. Puis lui résister, c'est résister à la grâce qu'il veut étendre. C'est sérieux, là. On n'a pas le choix là, d'être sel et lumière. C'est le bien que Dieu veut faire à ce monde. On va résister au bien que Dieu veut faire en ne voulant pas aller et proclamer. C'est sérieux. Ça nous amène au deuxième rôle de l'Église. Non seulement d'aller dans le but de proclamer, mais aussi se tenir pour proclamer. Verset 27. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne nous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Puis là, on a l'histoire avec Gamaliel qui dit, « Hey, mes amis, faites attention. Si vous opposez à ce que Dieu fait, de l'être dans le trou. » On l'a lu tantôt. La justice qui se tient pour proclamer. Notez qu'au verset 28, les leaders d'Israël ne voulaient même pas nommer le nom de Jésus. Ils disent « cet homme-là ». Ça dit, en fait, les deux fois qu'ils réfèrent à Jésus, ils disent « nous n'avons pas interdit d'enseigner en ce nom-là. » Puis, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais remarquez la réponse de Pierre, qui ne passe pas par quatre chemins. Il nomme le nom, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Il le nomme, cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait être clair. Pourquoi les choses qui arrivaient là, c'était toutes à cause de Jésus, le Messie, qui était venu dans cette mission et qu'il rejetait. Et Pierre et les apôtres, non seulement ils nomment, mais ils proclament qui est ce Dieu qu'ils rejettent. Ce Messie, ce Sauveur. Et ils se tiennent comme ça pour Jésus-Christ, qui est la vérité même, pour que son nom soit honoré. Ce nom qu'ils ne veulent même pas nommer, eux, ils le mettent de l'avant. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et il n'y a aucun autre nom qui n'est donné sur la terre par lequel nous pouvions être sauvé. Donc, ils ne cachent pas ce nom. Ils proclament ce nom. Ils se tiennent pour ce nom. Et c'est là toute l'importance. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est le cœur du message. C'est là toute l'importance du rôle social de l'Église. De prendre position pour proclamer le nom de Jésus, la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus. Là, je vais vous expliquer quelque chose qui est simple. Vous pourrez le regarder beaucoup plus. Vous savez, c'est de la sociologie. Vous pouvez regarder ça plus en détail. Mais si je vous dis, si je vous donne l'expression « fenêtre d'Overton », c'est quelqu'un qui a déjà entendu
cette expression. Overton, c'est un sociologue américain qui a fait une étude sur les tendances sociales et tout ça, et qui, pour vous résumer, en fond, ce que lui a expliqué, c'est que la société a des normes, il y a des choses qu'il accepte. Certaines sociétés acceptent des choses, d'autres ne les acceptent pas, mais il y a un mouvement d'acceptation. OK? On va vous donner un exemple. Dans les années 60, ici, au Québec, au Canada, et je sais que c'est différent en Afrique, parce que probablement que ce qui est, en ayant parlé avec des gens de la Côte d'Ivoire, imagine, ça doit être aussi comme ça dans d'autres pays d'Afrique, l'homosexualité dans les années 60, ce n'était pas accepté. En fait, on parlait hier de ça, c'était vu comme une maladie mentale. Puis des fois, les gens allaient dans des sanitariums, OK? Mais à travers les médias, la culture, OK, les différentes mesures gouvernementales, la fenêtre d'acceptation en 1960 était là. Mais à travers cette pression-là, là, ça a changé, puis les années 80, 90, c'est devenu socialement acceptable, c'est normal, c'est correct. Puis là, elle se déplace encore plus loin, où est-ce que maintenant, c'est tout avec le trans et tout ça, puis OK. Dans le fond, c'est quoi? C'est la fenêtre qui bouge. OK? Ce qui n'était pas acceptable avant, maintenant, oh, c'est rendu normal, c'est acceptable. OK? Comprenez? Oui. C'est pas très compliqué, mais l'essence, c'est ça. Nos gouvernements, nos influenceurs, les médias sociaux poussent la fenêtre. Hors de tout le fondement judéo-chrétien de nos sociétés. C'est systématique. Et ils font ça dans toutes nos sociétés pour nous faire accepter le mal. Et OK, vous allez dire, ben c'est pas nouveau, c'est dans Romains 1, effectivement. OK, c'est vrai. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, puis bon, OK. Mais l'ampleur, elle est inouïe. Or, de par son rôle de se tenir pour proclamer la justice de Dieu, l'Église de Jésus-Christ est gardienne de la justice. Par la vérité face au mensonge, en disant ça c'est vrai, ça c'est faux, n'est-ce pas que l'Église est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité? Et aussi par amour face à l'asservissement et la destruction du mensonge. Les gens pensent que oh, c'est la liberté, c'est bien beau penser. C'était quoi, hein? Le peace and love des années 60, l'amour et tout, c'est quoi ça a donné? C'était pas de l'amour, c'était de l'asservissement, ça l'a détruit une génération complète. C'était pas de l'amour, parce que c'était pas selon la vérité, donc c'était pas le vrai amour. C'était du mensonge. Mais l'Église est appelée à proclamer ce message d'amour, de libération et de vérité face au mensonge, face à une haine asservissante, divisante, et disons-le, répugnante. C'est pas beau de voir notre monde, comment il est rendu, je veux dire. Ça devrait nous montrer la beauté de Christ, puis de son œuvre, sa vérité, puis voir, wow, mon ami, ça se compare tellement pas. Est-ce que c'est beau quand que le monde, puis la chair, puis Satan dirigent? Ça donne pas vraiment quelque chose de beau, n'est-ce pas? C'est nous qui connaissons la différence. C'est à nous de glorifier Dieu en le proclamant, puis en disant, il y a un Seigneur qui est bien mieux que ça. Il y a un roi qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui lui fait tout à merveille. Et encore là, le corps de Christ, nous sommes la continuation de ce que Jésus est venu faire. Jésus est le Messie qui est venu dans une mission. Et encore, je vous souligne des choses qui ont été dites dès son incarnation, dans Luc 22, écoutez ce que ça dit, Luc 2, pardon, 34 et 35, Siméon, cette fois-ci, avant c'était Zacharie, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Dès le berceau, Jésus était voué à ne laisser personne indifférent. Car c'est soit qu'on le reçoit ou soit qu'on le rejette. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas un « je veux la moitié de Jésus, je veux Jésus un petit peu ». Non, c'est « t'es avec ou t'es contre ». Jésus le dit. Celui qui n'est pas contre moi est contre moi. Ainsi, Jésus révèle les pensées du cœur. N'est-ce pas aussi ce que la parole fait? Hein? Elle révèle les pensées et les intentions du cœur. Bien, ça, c'est la parole écrite. Jésus, la parole incarnée aussi, dès le berceau, a fait ça. Ça dit ici, il révèle les pensées de beaucoup de cœurs qui sont dévoilées. Et ça, mes amis, ça veut dire ceci. Si Jésus est comme ça, qui laisse personne indifférent, puis qui dévoile les cœurs, ça l'exige que nous prenions position par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'on... la mission qu'il est venu accomplir, c'est soit qu'on la reçoit, soit qu'on la rejette. Et le monde fuit. Le monde essaye de fuir ça. Le monde veut relativiser tout, puis dire que non, c'est une espèce de zone, de grande zone de différents tons de gris. Mais la vérité, c'est soit qu'on, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Puis c'est soit qu'on on reçoit Christ, puis on se confie en lui, soit qu'on le rejette. Puis on a beau mettre la petite sauce là, pour essayer d'embellir ça, au bout du compte, c'est ça. Si vous êtes ici, vous avez appris le vocabulaire chrétien, vous avez appris ce qu'on attend des chrétiens, mais que vous n'avez pas la vie, que vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez mis toute la petite sauce et tout ça, c'est soit que vous acceptez Christ ou soit que vous le recevez. Il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas être à moitié sauvé. Puis on ne peut pas être à moitié pas sauvé. C'est soit qu'on l'est, c'est soit qu'on ne l'est pas, c'est soit qu'on a la vie ou soit qu'on ne l'a pas. Hey, c'est méchant de dire ça. C'est pas très post-moderne. Non, c'est biblique. Amen. Et le monde fuit, veut essayer de déplacer cette fameuse fenêtre dont je viens de parler. Mais ça ne change en rien que Dieu, encore et toujours, dévoile la réalité des cœurs. Et le rôle de l'Église, c'est de se tenir pour proclamer. De se tenir pour proclamer qu'il y a une différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Et qu'il y a un Dieu, et qu'il est le seul sauveur, et qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ça, mes amis, ça change la vie de ceux qui l'acceptent. Ça restaure ce qui a été brisé. C'est le plus beau message d'espoir qu'il y a dans ce monde. On n'a pas à être gêné de ça. Et je dirais, on doit être prêt à payer le prix de se tenir pour proclamer. C'est le troisième point. Non seulement il y a la justice qui va dans le but de proclamer, qui se tient pour proclamer, mais aussi qui souffre parce qu'elle proclame. C'est le prix de proclamer un message comme celui de Christ, la souffrance. La justice qui souffre parce qu'elle proclame. Et on voit ça à la fin de notre passage, dans les versets 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis. Donc là, Gamaliel a parlé, a dit, OK, laissez-les aller. Donc, le Sanhédrin s'est rangé à son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Peut-être qu'ils ont dit au nom de Jésus pour être sûr qu'ils comprenaient. Là, ils l'ont nommé peut-être le nom, mais en tout cas. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le fruit, le résultat d'être allé pour proclamer et de se tenir comme ça, c'était la souffrance, c'était la persécution. Mais savez-vous que historiquement, bibliquement, historiquement, ça a toujours été bon pour l'Église. Toujours, c'est une constante. Alors, si c'est bon, si Dieu se sert de la souffrance, de la persécution, pourquoi on la fuirait? Aimez-vous les promesses de la parole de Dieu? Aimez-vous les promesses de la parole de Dieu?
Oui.
Ah, c'est une question piège. Je vais vous en lire une que... Je sais pas si on l'aime tant que ça. Ouais, voulez-vous que je la lise? Or, à tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. C'est une promesse. Amen. Hey, on aime bien. Je connaîtrai Christ, c'est la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. C'est un package deal. C'est aussi non négociable. Et ça illustre ici que il y a un prix à ces promesses. C'est des promesses. Il y a des choses, c'est des faits. Christ vit en moi. Si vous êtes sauvés, Christ vit en vous. C'est un fait. Ça ne peut pas changer. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu, je vis à la lumière de ça. Mais il y a des promesses qu'on doit s'acquérir, prendre par la foi. Et il y a un prix pour ça. Maintenant, on a un ennemi. Et savez-vous que notre ennemi, là, c'est une créature, puis il est vraiment, il est plus fort que nous, mais il est vraiment pas plus fort que celui qui vit en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es un enfant de Dieu. Mais savez-vous qu'il y a deux caractéristiques fondamentales, notre ennemi. Jésus l'a dit dans Jean au chapitre 8, verset 44. Écoutez, ça dit, vous avez, là il parle aussi justement aux leaders de sa nation, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Satan a deux caractéristiques, il est meurtrier et menteur. Mais Jésus-Christ, c'est l'inverse. Il est amour et vérité. C'est vraiment, les deux sont aux antipodes. Et c'est Jésus qui est amour et vérité que nous sommes appelés à représenter dans ce monde, à se tenir pour lui, même face à l'hostilité que ça peut engendrer. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que la souffrance est inévitable pour ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Parce qu'on est dans une guerre, puis il y a une opposition. Puis si Jésus est venu et qu'il a marché dans cette voie, est-ce qu'on devrait être surpris si on doit avoir le même sort? Voilà pourquoi la tentation... Et écoutez, j'ai parlé de fenêtre, là. C'est pour ça que la fenêtre, je l'ai laissée ouverte aujourd'hui. La tentation pour nous autres, individuellement, puis comme Église, c'est de laisser la fenêtre être déplacée. La fameuse fenêtre, là, de ce qui est acceptable. OK? Laisser ça aller. Puis ça, mes amis, là, si vous n'avez pas écouté déjà en ligne, je pense que ça va tout être en ligne, mais c'était vraiment excellent, les messages d'hier, vraiment, vraiment bons. Là. Donc, c'est tout traduit, c'est dans les deux langues. Je vous encourage à l'écouter. Mais on a eu un message sur 1 Corinthiens 10, 13. Connaissez-vous 1 Corinthiens 10, 13? « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Laisser la fenêtre se déplacer sans rien dire, c'est de prendre une fausse porte de sortie. Prendre le moyen d'en sortir qui n'est pas Jésus-Christ, qui est le moyen humain de la chair, des raisonnements humains. Et la majorité du monde chrétien a accepté que le schéma de référence de la parole de Dieu, que le standard absolu de la vérité qui est dans la parole de Dieu soit déplacé et soit remplacé par le narratif du monde qui a redéfini c'est quoi qui est essentiel, c'est quoi qui est dangereux. Parce qu'en passant, ce qui est le plus dangereux, c'est pas un virus, c'est l'enfer éternel pour quelqu'un qui est encore mort dans ses offenses et ses péchés. C'est ça le plus grand danger qui nous guette. Si on n'est pas sauvé. C'est la grande tromperie de 2020 jusqu'à 2022 et celle qu'aurait dû connaître mieux l'Église de Jésus-Christ a contribué à laisser cette fenêtre d'acceptabilité se déplacer. Et ça n'a jamais été historiquement. Bibliquement, ça n'a jamais été le cas. Que l'Église, comme ça, embrasse le discours du monde et laisse le monde redéfinir ce que Dieu a dit qui était tel et tel et tel. Amen. Vous rendez-vous compte de ces... C'est grave. César dans l'Église. César qui dirige l'Église de Jésus-Christ. C'est inacceptable. Et ça, je veux dire, on n'a pas d'option. Puis je veux... C'est pas l'idée, on veut être révolutionnaire. Non, on veut être biblique, parce que dans la Bible, c'est quoi qu'ils ont dit? Arrêtez de parler en ce nom-là, puis hey, vous remplissez Jérusalem. C'était pas négociable, ils ont continué pareil. Puis c'est ce qu'on voit, ils ont souffert, mais qu'est-ce que ça dit? À chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Tu sais, c'est comme, on va se calmer, on va juste aller. Non, ça continue encore plus. Il y a encore dans le temple, puis aussi dans les maisons. Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, ça veut dire que pour nous, la solution est bien simple. Oui, OK, il y a tout ce concept-là là, avec le titre « Allez, tenez-vous, puis annoncez ». Mais comme on le voit dans le verset 42, ne pas cesser ça. Ne pas cesser, juste continuer. Ne pas cesser d'aller, de se tenir et d'annoncer. C'est à ça qu'on est appelé. Et oui, il y a un prix, mais notre Seigneur a ouvert la trace. Et c'est à cela que vous êtes appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et ce verset-là est écrit dans un livre du Nouveau Testament qui est écrit aux chrétiens persécutés, pour leur montrer comment ils doivent répondre à la persécution bibliquement. Un pierre, c'est précieux. Alors, pourquoi baisser les bras? Pourquoi jeter la serviette? Vous savez, Jésus-Christ est si proche, le rétablissement de toutes choses est si proche. Pourquoi on baisserait les bras? Pourquoi qu'on abandonnerait alors qu'il est juste à la porte? Mais la question, c'est, es-tu prêt? Es-tu prêt à le rencontrer? C'est quoi tu vas dire ou présenter à Dieu lorsque tu vas lui faire face? Vous savez, si tu as des arguments pour dire pour lesquels tu devrais entrer dans son ciel ou si tu veux présenter ta justice, je vais juste vous lire deux versets qui vont aider à vraiment voir que ça ne sert absolument à rien. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Devant Dieu, là, on ne va rien avoir à dire. Pas d'arguments, pas de... Puis si nous sommes tous impurs et notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris, comme une feuille, et nos cris nous emportent comme le vent. Devant Dieu, on n'a rien à apporter, pas d'intelligence, pas de sagesse, on n'a pas de justice en nous-mêmes. Nous n'avons rien, mais il a tout et il est tout. La question, c'est où je mets ma confiance? Voyez-vous comment c'est fou de mettre sa confiance en nous, qui sommes absolument frêles et qui n'avons rien, alors que Dieu nous offre absolument tout, sa justice parfaite en Jésus-Christ. Si vous êtes ici et vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, comme votre substitut devant Dieu, comme celui dans lequel vous allez, devant lequel vous allez pouvoir vous tenir, pourquoi? Pas parce que vous avez quelque chose de bon à offrir de vous-même, mais parce que vous avez reçu celui qui est parfait devant Dieu, et votre confiance est en lui, puis devant Dieu, vous allez pouvoir dire, « Ah, moi, je n'ai rien à offrir, mais j'ai mis ma confiance devant celui que tu as accepté, Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Si vous n'êtes pas sauvé, mettez votre foi, toute votre confiance. Détournez-vous de la vanité de votre voix, puis mettez votre confiance en Jésus-Christ qui l'a fait sur la croix du calvaire pour vous. Et si vous êtes ici en tant qu'enfant de Dieu, vous avez été sauvé par sa grâce, vous savez que sa mission, ce n'est pas optionnel. OK, la moitié de l'Église ici, vous autres, il faut que vous teniez pour Jésus-Christ, aller annoncer. Puis vous autres, ben, c'est beau, vous pouvez juste, tu sais, comme passer vos semaines à... Non, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est all in, c'est au complet, pour tout le monde. Et la question, c'est, est-ce que moi aussi, je veux me confier en lui pour ça, parce qu'on l'a vu, hein, comment ça finit. Oh, ils ont été persécutés. Mais, manquez pas le point, là. Pourquoi qu'on aurait peur de souffrir quand on voit que ceux qui souffrent dans la Bible, mon ami, la récompense, c'était premièrement, eux, ils étaient tout joyeux, ils sont pas venus là, pour tout décourager, ils sont venus craquer, un peu comme nous autres le 23, on était tous contents, au lieu d'avoir été tous, Dieu nous a donné un privilège, puis ça nous a fortifié, le dimanche après, mes amis, là, l'Église n'était pas pareille, on était craqués. OK, pour ceux qui craquent, il faudrait que tu traduises ça peut-être en Kinyarwanda, parce que je ne sais même pas si tu comprends. Ah, oh, désolé, là je parle en québécois, c'est pas très... Craquer, comment on dirait ça en bon français? Survolté. On était survolté. En feu. En feu, en feu. c'est pas en vain. Puis, comme on l'a dit souvent, la souffrance, mes amis, c'est pas comme « Ah, oh, il faut souffrir, c'est donc bien plat. » Non, c'est un rendez-vous divin. Parce que lorsque Paul parle de connaître Christ, la puissance de la résurrection, il parle de la communion de ses souffrances. C'est pas comme « Ah, oh, vas-y, tu sais, pense à prendre la souffrance seule, puis à l'autre bout, je vais te rejoindre. » Non, Dieu dit « Va dans la souffrance, mais en plein milieu de la souffrance, là, je suis là. Puis tu vas me connaître, tu vas m'apprécier, tu vas te réjouir à moi d'une façon que tu n'as jamais connue avant. »
Amen.
Wow! Pour moi, c'est un bon deal. Pourquoi on ne ferait pas confiance à un Dieu de même? Et juste une chose sur tout ça pour terminer ce matin. Tu sais, je dis pourquoi lancer la serviette puis tout ça. Pis des fois, on peut être un peu pessimiste parce que ah, ça va donc bien mal puis tout ça. Savez-vous, je pense que l'Église de Jésus-Christ a joué un rôle déjà au Canada en 2020 jusqu'à 2022. Cette fameuse fenêtre, il y a des gens qui se sont venus qui ont dit non, c'est pas acceptable. Un pasteur comme James Coles ou un frère comme François, Amalega François, son prénom c'est Amalega. Des gens qui se sont tenus, puis mon frère dit, c'est vrai, ça a sorti dans l'émission cette semaine à Théoverse. Dieu nous envoie quelqu'un d'au loin pour venir se tenir pour nous ici au Québec. Amen. Mes amis, ça doit être une leçon pour nous autres. Et tout ça, mes amis, c'est juste pour dire que ça vaut la peine, ça fait une différence. Ah, certainement que c'est pas le monde qui va tout dire « Ah, on est content que les chrétiens nous empêchent de nous autodétruire en redéfinissant le mal en bien et tout ça. » Non, puis il faut pas s'attendre. Le monde est le monde. Mais ça fait une différence. Ça a fortifié les frères dans la foi. Il y a beaucoup de gens. Je sais pas si vous avez suivi là, l'histoire de ces églises, de ces gens-là. Le Seigneur a sauvé des gens. Il a fortifié. Il a fait un œuvre extraordinaire. C'est pas en vain. Donc, qu'on s'unisse ensemble dans la prière en réponse à ce message pour invoquer l'Éternel pour qu'il continue, qu'il nous fortifie, que notre foi ne vacille point. Et s'il y en a qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus, qu'ils la placent en lui et lui seul pour le salut de leur âme. Seigneur, merci pour ce temps béni dans ta parole avec ton peuple. Et Seigneur, merci que tu n'as pas fini avec nous et tu es encore en mission et... Le monde peut dire « Ah, OK, c'est beau, il n'y a plus toutes ces restrictions-là et tout ça. » Mais Seigneur, la vérité, c'est qu'on est encore dans une guerre spirituelle et que encore l'étendard de l'Évangile de Jésus-Christ doit flotter sur ton Église et qu'on est appelé à être sel et lumière dans ce monde. Seigneur, on veut aller se tenir et annoncer toutes les paroles de cette vie, la vie de Jésus. Seigneur, si quelqu'un ne la connaît pas encore, cette vie merveilleuse, la vie éternelle. Ah, que tu puisses aujourd'hui, maintenant même, exercer cette pression sur le cœur et qu'il cède, qu'il puisse te recevoir pour leur sauveur, pour le Seigneur de leur vie. On te le demande au nom de Jésus. Amen.